patria, patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horns.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Salut.
Bonjour.
Vous êtes bien sur 97 FM,
Radio Kaleidoscope,
pour l'émission de Dégenrer, l'émission pour déranger.
C'est ça, ce soir on va parler de l'héritage du blues et du féminisme noir.
Et pour commencer, peut-être faire un petit topo sur la naissance du blues. La naissance du, enfin, le blues est né dans le terreau sudiste post-éclavagiste. Donc nous sommes aux États-Unis, donc il y a la misère, de la famine, des maladies, absence de sécurité sociale, de structure d'éducation, grosse crise économique. Ça, c'est un tableau un peu de l'ancienne confédération sudiste qui se trouve aux USA, qui peut concerner des blancs comme des noirs, mais pour les noirs avec un grand N. La situation est encore pire, puisque la ségrégation mise en place dans les années 1870-1880, qui a duré jusqu'en 1967, dans l'état du Mississippi, avait pour but la suprématie blanche. Donc ça veut dire brimade, injustice, mépris, violence. Donc toutes ces violences sont fréquentes et sont le lot quotidien des Noirs de ce système, dont le principe essentiel était la séparation des races, avec en filigrane un statut d'infériorité permanent pour les anciens esclaves. Déprimant, situation déprimante. De quoi donner le blues? Et justement, la ségrégation a donné le blues. En devenant bluesman, le chanteur noir dit « je » pour la première fois dans l'histoire des Noirs en Amérique. Il raconte sa vision des choses, ses sentiments. une prise de parole individuelle qui affirme une humanité que le système ségrégationniste veut nier. Donc c'est un acte de résistance individuelle par le jeu et collectif, par la reconnaissance d'une communauté dominée et infériorisée par des blancs.
Voilà, donc le blues va créer un langage subtil qui sera construit parfois d'une telle manière qu'une oreille distraite n'entendra que le premier degré du message et passera à côté du second degré qui sera davantage cru sur la critique justement du maître blanc, du sort réservé aux noirs ou même sur l'existence et tout ce qu'elle entend qui leur était alors supprimé ou volé, quoi. Pas de sexualité, pas de désir, pas de rêve. De nombreuses chansons ont un double sens politique social, antiségrégationniste, antiraciste, évident. On peut même parler de triple sens, un premier degré, un second niveau sexuel et un troisième niveau politique. Beaucoup de chansons issues du blues se réclamant d'une force à affirmer tentent en fait à affirmer un désir de reconnaissance politique et sociale. Le noir des chansons est autant un être de sexe qu'un être humain qui veut être reconnu et traité humainement. Les textes de blues racontent principalement la dureté de la vie et les injustices, ce qui va donner au blues une espèce de réputation, comme tu disais, un peu de musique du désespoir et tout ça machin. Alors que pourtant, si on écoute les paroles, elles sont plutôt un peu joyeuses et avec de l'humour, du cynisme, et aussi c'est quand même des paroles émancipatrices, quoi. Qu'appelle un peuple à l'émancipation. Et le blues, ce qui va le différencier un peu du gospel, qui va être un peu dans la même lignée, enfin qui va aussi appartenir vachement au peuple noir, n'évoque pas Dieu, au sens où il voyait un peu dans justement le gospel une résignation à la révolte, alors que le blues va plutôt être un appel à la révolte. Et il y avait quelqu'un qui disait, un noir qui disait, ou une noire, « Je vis une vie d'esclave, mais ça va changer, nous nous révolterons, et je le chante dans mes blues. »
Ok, alors la première chanson qu'on vous propose, c'est « Crazy Blues » de Mamie Smith. Et il est important de savoir que dans notre société patriarcale, c'est la première personne qui a enregistré, nous sommes en 1920, et c'est une femme. « Crazy Blues » Mamie Smith.
Hold on one night. the railroad in your head on the track. Thought about my daddy, I'm glad he's standing back. Now I've been gone and gave me
Nous avons tiré le titre de notre émission d'un livre qu'a écrit Angela Davis, qui s'appelle donc Les héritages du blues et du féminisme noir. C'est un bouquin qui a été écrit, je crois, édité en tout cas aux États-Unis en 1999, qui n'a jamais été encore édité en France. Mais par contre, on a pu trouver un article qui parle un petit peu de ce bouquin que nous allons vous lire. Et avant de vous lire ce bout d'article, un petit topo sur Angela Davis. Donc, elle est née en 1944 en Alabama. C'est une militante communiste contre le racisme et le sexisme. Elle lutte dans le mouvement des Black Panthers, donc un mouvement révolutionnaire afro-américain pour la liberté de la communauté noire, et au sein du mouvement Black Féminisme, donc mouvement de libération des femmes noires comme force révolutionnaire, manifestant l'existence d'une spécificité de l'oppression dirigée contre elles, puisqu'elles sont noires et femmes, et s'opposant aussi tant bien au racisme qu'au capitalisme.
Dans son analyse de Gertrude Marenet, Bessie Smith et Billie Holiday, Angela Davis démontre comment ces femmes contribuèrent à façonner la conscience noire et féministe en défiant la culture dominante.
En remettant en cause les concepts d'infériorité de genre et de propriété bourgeoise, leurs chansons exprimaient l'indépendance et l'assurance des femmes, en particulier dans le champ de la sexualité.
Argumentant que la longue expérience d'esclavage et de ségrégation aux États-Unis a conduit la conscience sociale noire à être surdéterminée par la race, Davis cherche à élargir cette unidimensité en intégrant à son discours les questions de genre et de classe.
En examinant les contributions féministes de ces trois femmes de blues et de jazz, issues des classes populaires, elles révèlent comment leur musique dépasse le cadre de la culture et la conscience noire tout en s'y inscrivant. Donc je rappelle, les trois chanteuses de blues dont elles parlent dans ce livre sont Gertrude Marenet, Bessie Smith et Billie Holiday, et nous on vous en parlera un peu plus tard aussi.
Pendant des décennies, le blues a été décrit par les intellectuels et les critiques sous tous les angles, mais jamais comme un antécédent historique pour le féminisme noir contemporain. Le blues fut tout d'abord représenté comme un genre musical, une esthétique, une sensibilité et un style associé à la culture afro-américaine post-esclavage. Davis voit, dans le blues de René et de Smith, ainsi que chez Billie Holiday et ses paroles anodines métamorphosées par son chant, des références codées à l'oppression et à la résistance féministe. En démystifiant les notions conventionnelles de domesticité féminine et de sexualité, les vies, les paroles et les chansons de ces femmes pervertissaient, rejetaient et redéfinissaient l'image ou l'absence d'image du fait d'être femme dans une société patriarcale. Emplies d'affirmations sur l'amour et la sexualité, leur musique entrait souvent en contradiction flagrante avec les suppositions idéologiques les plus répandues, portée par la classe moyenne blanche quant aux femmes et à l'amour. En rejetant les politiques oppressives de victimisation qui les rangeaient dans des catégories de femmes perdues, elles s'emparaient de liberté sexuelle, ce que Raph Ellison percevait comme leur côté mystérieux, leur capacité à évoquer bien plus qu'elles n'affirmaient de prime abord, leur capacité à donner des détails sur le sexe, un sens qui touche au métaphysique.
Ensemble, ces femmes créaient des caricatures musicales de la domesticité. en clin d'œil à leur vision alternative d'une identité féminine qui révélait les débuts d'une attitude d'opposition face à l'idéologie patriarcale.
À travers leur musique, elles créent un espace culturel pour le développement d'une conscience de communauté parmi les femmes noires issues des classes populaires. Un espace dégagé des notions bourgeoises et oppressantes de pureté sexuelle et de féminité véritable.
Il ne fait aucun doute que leur musique devait générer un sentiment de bonheur et de liberté auprès de ceux qui avaient été enchaînés des siècles durant par leur maître, qui se retrouvaient désormais enchaînés à des concepts incongrus, bourgeois et blancs, sans rapport avec la réalité sociale de la plupart des femmes noires. Par défi envers l'idéologie hégémonique des hommes blancs de classe moyenne, leur musique célébrait les désirs sexuels, les exploits et l'indépendance des femmes noires, se délectant du pouvoir déstabilisant que leur autonomie sexuelle leur offrait sur les hommes.
La chanson de Bessie Smith, Down Earth Blues, remplie de sous-entendus sexuels à peine voilés, conclut par
I got the world in a jug, the stoppers in my hand.
J'ai eu le monde dans une carafe, le bouchon est dans ma main.
I'm gonna hold it until you men come under my command.
Je vais le tenir jusqu'à ce que vous, les hommes, veniez sous mon commandement.
La sexualité féminine pouvait non seulement être gratifiante, elle pouvait également donner du pouvoir et menacer le paradigme patriarcal dominant. Leur musique répandait un message subversif, offrant aux femmes un horizon autre que résignation, conformité et désespoir.
Les Afro-Américains ont survécu à l'esclavage et au reste grâce à leur utilisation d'un anglais transformé, incompréhensible pour les Blancs. À partir de cette notion, Davis soutient que le sens d'une chanson n'émerge pas nécessairement de l'interprétation littérale de ses paroles. Elle examine les implications sociales de la capacité qu'avait Billie Holiday de transformer des chansons inconséquentes, simples, en un moyen de véhiculer des explorations émotionnelles complexes et des critiques sociales. L'instrument de Holiday était sa voix, et elle s'emparait du défi harmonique représenté par les chansons pop, par la chanson pop, tout comme elle imprimait sa marque de façon indélébile avec ses interprétations personnelles et souvent très ironiques de paroles anonymes et blanches. Son art incarnait une position critique envers les relations sociales à une époque où le changement paraissait irréaliste. Davis soutient que les chansons de Billie Holiday sont évocatrices à travers le temps parce que nous les envisageons comme une présence anticipée d'une position qui fut par la suite systématiquement produite et élaborée par les mouvements sociaux qui insisteront sur les transformations historiques des relations de genre, de classe et de race.
La chanson que Holiday décrit comme sa protestation personnelle contre le racisme est Strange Fruit. Apparemment incongrue dans son répertoire de chansons populaires, cette chanson était celle qu'elle interprétait avec insistance, tous les soirs, vu qu'elle lui permettait de réconcilier sa célébrité avec sa conscience sociale à travers la musique. En ouvrant résolument la voie de la protestation au sein de la culture musicale populaire noire, Holiday fut capable d'éveiller de leur langueur apolitique un large nombre de gens d'origine raciale très différente. Désavouée par la critique, n'y voyant que de la propagande pure, Strange Fruit articulait la rage collective de la population noire face à l'incessante brutalité d'une société raciste.
Tout comme l'hymne des droits civiques de Curtis Mayfield, Under Impression, We Are Winner, Strange Fruit a changé la politique de la culture populaire américaine, malgré le fait que de nombreuses radios refusaient de passer ces deux chansons. Holiday a montré qu'elle pouvait faire mieux que d'ajouter de l'émotionnel aux paroles sirupeuses de la chanson pop, en chantant ce morceau d'art plein de passion et de valeurs sociales et émotionnelles.
Avec Strange Fruit, elle a courageusement interpellé des milliers de fans blancs sur leur complicité tacite avec les meurtres continus envers son peuple. En résistant à l'idéologie raciste incarnée par les lynchages, Holiday a émis un appel poignant au réveil et il a résonné partout, bien que certains restèrent insensibles au message brutal de cette chanson, pour exemple.
Une femme dans une boîte de nuit à Los Angeles demanda à Holiday « Pourquoi ne chantez-vous pas cette chanson sexy pour laquelle vous êtes si connue ? Vous savez, celle à propos de corps nus se balançant dans les arbres ?»
Le bluesman John Lee Hooker a dit un jour que le blues est né le jour où Adam et Ève se sont rencontrés. Dans un monde patriarcal, le fait que les femmes noires furent les premières à enregistrer du blues a du sens. Les images et les idées qui emplissaient leurs chansons, leurs blues, résonnaient dans la conscience collective des femmes noires de la classe ouvrière des années 20. Renée, Smith et toutes les autres blues women ont encouragé leurs audiences à prendre conscience et à affronter leurs démons, comme elles le firent en vivant leur vie et en chroniquant ces vies dans leurs chansons. Ce faisant, elles articulèrent et façonnèrent courageusement la conscience noire féministe, ouvrant la voie au mouvement de protestation sociale incarné par Strand Fleet de Billie Holiday, ainsi qu'aux luttes des activistes politiques pour l'égalité des décennies suivantes.
Alors, pour peut-être que ce texte vous pénètre davantage, on va vous faire écouter Strand Fleet. On va peut-être vous traduire d'abord.
Ouais. Alors peut-être pour vous situer, Strange Fleet, dont elle parle donc beaucoup dans son bouquin, le temps que je retrouve ma feuille. Donc Strange Fleet a été écrit au début du 20e par un enseignant juif du Bronx. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la communauté juive et la communauté noire étaient hyper solidaires de par des mécanismes d'oppression similaires. Cette personne, cet enseignant, écrit cette chanson et la propose à Billie Holiday, qui, elle, l'interprète en 1939 au Café Society. Donc, le Café Society est le premier cabaret dit intégré.
Interrace, il disait.
Voilà, interrace, c'est-à-dire en opposition au lieu qu'il disait segregate, donc segregate, je ne sais pas comment on dit, bref, de ségrégation raciale, n'acceptant pas les Noirs. Donc, elle le chante dans ce premier cabaret et au fil du temps, il devient un chant de ralliement des victimes d'actes racistes et aussi de minorités opprimées. C'est une chanson que nous pouvons retrouver aujourd'hui un peu de partout ou qui porte en tout cas des... une forme de résistance, quelle que soit ta minorité, l'oppression qu'on te fait subir et autres.
Et toujours avec cette même forme du blues, avec plusieurs étapes dans les degrés de compréhension, en fait. Alors, je vous la traduis. Les arbres du sud ploient sous d'étranges fruits. Du sang sur les feuilles et du sang aux racines. Des corps noirs balançant dans la brise sudiste. D'étranges fruits pendant aux branches des peupliers. Scène champêtre du sud valeureux. Les yeux exorbités et la bouche tordue. Le parfum des magnolias, doux et frais. Et soudain, l'odeur de la chair brûlée. Voilà des fruits pour régaler les corbeaux. Mûris par la pluie, rongés par le vent, pourris par le soleil jusqu'à ce qu'ils tombent. Voilà une étrange et amère récolte.
Twisted mouth, sin of man. in the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and
alors, c'était Stone Street, Billie Holiday.
Trop beau.
Trop beau. Alors, peut-être vous parler un peu de Billie Holiday, qui malgré qu'elle arrive un peu plus tard que Bessie Smith et Ma Rainey, donc plutôt dans les années 40-60, c'est aussi une chanteuse de blues, même si c'est aussi une chanteuse de jazz. Voilà. Alors, pour vous raconter un peu la vie de Billie Holiday, qui est quand même une espèce de vie impressionnante. On a lu un peu son histoire, quoi, et c'est chargé de trucs assez intéressants. Mais bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que du coup, elle va grandir à Philadelphie, je crois, aux États-Unis, avec sa mère. Voilà. Et donc sa mère va avoir plein de problèmes et tout ça machin. Du coup, elle va se retrouver un peu enfant à devoir se débrouiller toute seule. Chose qu'elle va quand même réussir plutôt pas mal. Après, il va lui arriver pas mal de péripéties qui, hélas, sont l'histoire de beaucoup de femmes. Du coup, elle va subir un viol. Après cette histoire-là, elle va se retrouver en maison de redressement. Hein, parce qu'après un viol, où est-ce qu'on va ? On va dans une maison de bonne sœur. Et ça va lui arriver à deux reprises. D'ailleurs, plus tard, elle a écrit un truc sur le viol que je trouve intéressant. Même si, elle disait, « Même si vous êtes une traînée, vous ne voulez pas qu'on vous viole. Même une pute qui ferait 25 000 passes par jour ne voudrait pas se laisser violer. C'est la pire chose qui puisse arriver à une femme. » Bon, après, néanmoins, tout ça, tout ce qui lui est arrivé, c'est un peu une battante, quoi. Du coup, elle va continuer à se jeter dans la vie, même si elle s'en prend plein. Après, elle va, donc sa mère va trouver un travail aux États-Unis et donc elle va suivre sa mère, non pas aux États-Unis, pardon, à New York. Et du coup, elle va suivre sa mère à New York. Et là, à New York, pour elle, elle est déjà une fervente fan de Bessie Smith. Elle chante toutes ses chansons et tout ça. Mais là, du coup, elle va arriver à New York, qui va être la ville où déjà, dans Harlem, brasse beaucoup de blues, y a beaucoup de petits clubs comme ça entre noirs qui font du blues et tout ça machin. Du coup, elle va aller traîner dans ces trucs-là. Son père, qui est un père absent tout le long de son enfance, est aussi à New York et aussi un guitariste qui est en train de percer et tout ça machin. Du coup, par le biais de son père, à des moments, elle va pouvoir assister à des... vous savez, comment ça s'appelle, les moments où tout le monde chante en
des
même temps ?
Des performances ?
Ouais, des espèces de performances. Je sais plus, il y a un autre nom, mais je me souviens plus.
De slam blues ?
De... Ouais, c'est ça, de slam blues. Et du coup, voilà, donc elle va faire ça et entre-temps, elle va aussi devoir ramener de l'argent. Et justement, sur. On va. Elle va refuser de bosser comme domestique pour une blanche oisif qui l'exploite et l'insulte à longueur de journée. Parce qu'elle décide que sa vie, justement, ne sera pas celle d'une boniche que l'on traite de nègre. Elle préfère se prostituer, car un seul rendez-vous à 20 dollars lui rapporte davantage qu'un mois de travail en tant que domestique.
Yeah.
Donc, elle n'est pas con. Et voilà, donc du coup, au départ, elle va se faire un peu de sous comme ça, du coup, en se prostituant. Puis après, petit à petit, elle va rentrer dans le monde de la musique et percer, parce qu'elle a une voix un peu sensationnelle et tout ça, machin. Du coup, petit à petit, elle va être reconnue. Dans sa vie, après, donc elle va devenir quand même vraiment très connue et très réputée, tout en même temps subissant cette espèce de double peine, en fait, en étant à la fois noire et à la fois femme. Du coup, à des moments, on va lui reprocher d'être trop noire pour entrer dans un chœur. À des moments, on va lui reprocher d'être trop blanche parce que c'était une noire à la peau claire, quoi. Enfin bon, bref, elle va subir tout un tas de discriminations raciales et aussi de discriminations en tant que femme. parce qu'effectivement, elle va se retrouver avec des mecs qui lui collent au cul parce que c'est une femme qui a du pognon. Des mecs qui, donc, pas seulement, mais notamment vont la faire tomber sous la poudre, donc d'abord l'opium, après la cocaïne, après l'héroïne. Elle va avoir bien le nez dedans. Et ça va être dur pour elle de s'en sortir avec des mecs qui vont continuer à l'exploiter, notamment par le biais de l'héroïne, en fait. Voilà. Et du coup, en même temps, c'est une femme sensationnelle qui, justement, dépasse les lois de la bienséance blanche, du coup, qui casse du sucre derrière les morales blanches, et qui... qui est d'une désinvolture assez sensationnelle et géniale, quoi. Et plein de femmes... vont se reconnaître dans cette Billie Holiday. Et voilà, puis après, bon, il lui arrive plein de péripéties dans sa vie. Elle se fait arrêter plusieurs fois et plusieurs fois emprisonnée pour des trucs d'opium, de drogue et tout ça, machin. Elle se retrouve avec tout un tas de mecs qui lui tapent dessus à longueur de temps. Mais bon, elle...
Justement, là, dans une de ses chansons, qui s'appelle « Long Gone Blues », c'est un chant qui visibilise l'esclavagisme des femmes à l'intérieur déjà d'une autre forme d'oppression qui est l'esclavagisme des Noirs. Et dans ce texte, la chanson qu'on va écouter là, elle dit comment elle a été l'esclave d'un homme et qu'aujourd'hui elle veut le voir dans sa tombe.
En dépit de leur importance, à la fois comme soutien et comme responsable de la famille, les femmes noires n'échappent pas à ce que l'on peut qualifier à juste titre comme double péril, à savoir non seulement d'être noire, mais femme. Historiquement, l'Amérique n'était pas seulement soumise à la prépondérance des Blancs, cette domination était aussi celle des hommes qui dominaient socialement, économiquement, institutionnellement et même constitutionnellement. Les femmes n'eurent le droit de vote qu'en 1920. Dans la véritable structure de caste où s'articulait la société américaine, les blancs, de sexe mâle, occupaient le sommet, suivis par les femmes blanches, puis par les noirs, puis enfin, tout en bas, par les femmes noires. Condamnés par la société blanche à jouer les mamans ou les prostituées, les noirs avaient à subir l'exploitation économique, les agressions sexuelles et toutes les formes d'agression du monde blanc. Ainsi, alors même que la population féminine noire était davantage disponible que la blanche sur le marché de l'emploi, l'éventail des métiers qui s'offraient aux noirs était infiniment restreint. Non seulement par défaut d'instruction ou de spécialisation, mais également parce que jouait le double handicap de préjugés racistes à l'égard des noirs et les idées préconçues des femmes noires. Non, et les idées préconçues des hommes sur ce que valaient ou pouvaient faire les femmes. Les femmes noires devaient accepter les travaux les moins payés par pure nécessité économique, en même temps qu'elles luttaient inutilement pour que leur famille reste unie. Même celles qui accomplissaient le même travail qu'un homme étaient moins payées. De plus, à l'image de ces petits blancs du Sud qui avaient au moins la consolation sociale de se croire supérieurs aux nègres, beaucoup de noirs trouvaient refuge et consolation dans le sentiment de la supériorité masculine sur les femmes, reléguant ainsi leur campagne, leur compagne, au sort pas très enviable d'esclaves des esclaves. Dans les familles noires, en permanence, déjà à la limite de l'effritement, les tensions et les conflits personnels que cette situation engendrait étaient énormes. D'autre part, comme à l'inverse des hommes, les femmes noires trouvaient relativement facilement à s'employer dans des emplois subalternes comme cuisinières, servantes et nourrices. Il s'ensuivait que bien souvent, elles en arrivaient elles-mêmes à intérioriser l'idée du noir, feignant, inutile et irresponsable.
Il y a d'ailleurs une chanson qu'on écoutera plus tard de Lil Green, une autre chanteuse de blues qui s'appelle « Why don't you do right ?» et qui reproche à son homme de ne pas rapporter suffisamment d'argent. Alors là, je vais vous parler de Gertrude Ma Rainey, qui est donc une autre chanteuse de blues du début du XXe. Donc elle est née en 1886 en Géorgie. Elle a un parcours, elle a eu une influence importante dans le blues. Donc elle, dès l'âge de 14 ans, elle se barre de sa communauté familiale et se lance dans une troupe de vaudeville itinérante. C'est en 1902 qu'elle écoute une femme chanter une complainte de façon étrange et poignante. Alors là, Ma Rainey, elle est séduite et elle décide de prendre ce style musical dans son cabaret itinérant. Et un jour, elle décide de nommer ce style musical le blues. Plus tard, elle se défendra d'avoir été la première à avoir découvert et nommé le blues alors que la presse, je le rappelle, dominée, en tout cas écrite par des hommes, dit que ce serait un homme, Andy, qui aurait découvert pour la première fois le blues en 1903. Donc, mis à part ce récit assez controversé dans l'histoire du blues, elle, Ma Rainey, a une influence importante sur le développement et la popularisation du blues, de cette nouvelle musique, parce qu'elle a une sacrée force, parce qu'elle s'investit dans cette culture musicale, parce qu'elle la visibilise aussi, elle lui donne un nom. Donc, dans ses chansons, Ma Rainey aborde sans problème les soi-disant déviances des comportements humains, en conjuguant l'humour et l'expression de choc, lorsque par exemple dans Sissy Blues, elle évoque la surprise de trouver son homme avec un autre homme, tout en n'hésitant pas à faire l'éloge du lesbianisme à la première personne dans Prove It On Me Blues.
En 1920.
Et elle a une autre chanson aussi, par exemple, qui s'appelle Hustling Blues, où là, elle déplore les conditions de travail d'une prostituée. Elle ne déplore pas le travail du
mais
sexe,
les conditions de
mais
travail.
Les conditions de boulot des travailleuses du sexe. On est toujours en 1920.
Et à savoir, c'était notamment les Blancs qui allaient chercher les prostituées. Du coup, c'est un rapport quand même assez difficile pour les femmes noires.
Donc ces chansons sont définies comme abrutes et qui prennent pas de gants, du blues de la plus belle eau qui mêle l'humour et le chagrin et alterne la candeur et la vulgarité. Donc, autre anecdote, en 1925, elle est perquisitionnée pour avoir organisé une partie indécente.
Et elle est arrêtée.
Bon,
puis elle sort assez vite, je pense, avec, avec des cautions. Et il faut savoir aussi que la plupart des ouvrages qui parlent du blues sont écrits donc par des mecs. Et alors c'est marrant parce que du coup, Ma Rainey, elle est considérée comme la maman du blues et tout ça machin. Mais alors il faut savoir que dans chaque bouquin qui parle d'elle, on précise qu'elle est laide. Et qu'elle a un physique
ingrat. Qu'elle a une grosse bouche, des dents en or, qu'elle a physique ingrat. Mais qu'elle a une voix, dès qu'elle chante, là tout le monde ferme sa gueule parce que juste, elle a trop une belle voix.
Alors on tient à préciser qu'elle n'a absolument pas un physique ingrat.
Que nous, on la trouve très belle.
Voilà. Alors, dans la suite, Ma Rainey, elle va justement parrainer une autre jeune chanteuse
de blues. Tu veux dire Ma Rainey. Ma Rainey, elle marraine une autre chanteuse de blues.
Ma Rainey. Bessie Smith et Bessie Smith qui est aussi assez réputée et connue. Alors je vous raconte un peu Bessie Smith. Je vous lis un petit truc qu'elle disait qui déjà tape un peu son caractère. Elle disait: il n'est rien que je puisse faire ou dire, que les gens me critiquent, je ferai comme je veux de toute façon, je ne me soucie pas d'eux même si tous me méprisent. Alors Bessie Smith, elle était autrement appelée elle l'impératrice du blues. On dit d'elle que c'était une femme puissante, d'une forte volonté. C'est effectivement une femme qui s'est battue pour ce qu'elle croyait. En gros, elle reculait devant personne. D'ailleurs, on lui connaît dans ses histoires de nombreuses bastons, à main nue et tout ça, machin, assez, assez sanglante. Et autrement dit, sa détermination devenait souvent une ardente colère et dont personne n'était exempté. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui aussi s'est battu franchement, en fait, quand elle était victime de discrimination raciale ou sexiste. Donc c'est une gamine issue d'une famille pauvre. Elle commence sa carrière à moins de 10 ans, en chantant et en dansant dans la rue, accompagnée à la guitare par son frère. Donc sa carrière professionnelle, elle commence en 1912, lors d'une rencontre avec Ma Rainey. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elles vont d'ailleurs devenir amies proches. Elles vont tourner quelques temps ensemble. Puis ensuite, Bessie Smith va partir faire carrière seule. Donc voilà. Puis après, toute sa vie, ça va être une espèce de baston. Une espèce de baston pour être respectée en tant que femme noire et en tant que chanteuse. Elle va mourir assez jeune... elle avait aussi un certain amour de la bouteille aussi, on le verra quand on racontera certaines de ses chansons. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que globalement, du coup, c'était des femmes sur lesquelles on crachait énormément parce que justement, elles aimaient la bouteille, alors que tous les autres bluesmen étaient tous alcooliques, pour la plupart, mais ça, on en entend très peu parler, mais pour une femme, c'était quand même la pire indécence. Bon, bref, et après, elle va mourir d'un accident de voiture. Alors, pourquoi est-ce que je le précise? Parce que cet accident va faire un peu... aussi du bruit, parce que il y a toute une histoire qui va raconter que elle est morte aussi parce qu'elle n'a pas pu bénéficier de soins, parce que l'hôpital le plus proche lors de son accident était un hôpital blanc, et du coup on aurait refusé de la soigner. Alors c'est une histoire qui a été assez controversée avec des gens qui ont réfléchi après et tout ça machin, mais quoi qu'il en soit, nous on s'étonnerait guère qu'à cette époque-là elle ait pu subir ce genre de discrimination.
Dans un album justement qu'elle, enfin un disque en tout cas qui est édité en 1924, la presse écrit de Bessie Smith: de vrais chants de haine. Bessie à coup sûr s'en prend aux hommes dans ce disque avec virulence. La façon qu'elle a d'annoncer ce qu'elle a l'intention de faire avec son couteau, une lame de boucher, fera sauter dans le premier express tous les joyeux butineurs pour filer à du 60 000 à l'heure. La musique elle-même est pleine de passions haineuses. On la voit pratiquement qui suinte de chaque touche de clavier. La fureur emporte les cordes des violons. Chaque note est une demi-note. Pas de quartier pour personne. Alors, ben, on va peut-être écouter justement un peu de Bessie Smith. Et dans la chanson qui s'appelle
Don't Help Blues,
yeah, Elle raconte comment elle était amoureuse d'un type qui a détruit sa vie, comment elle est dégoûtée, le cœur brisé, parce qu'il l'a maltraitée. Mais elle dit, une traduction pas très bonne, mais j'ai eu du monde dans une carafe, le bouchon maintenant est dans ma main, et je tiendrai jusqu'à ce que vous répondiez à mes exigences.
Donc là, on vient d'écouter une chanson de Bessie Smith. On va maintenant écouter une chanson de Marenay. Alors, cette chanson, elle est assez connue, justement, dans le mouvement gay, lesbien, trans, parce que c'était une chanson, justement, qui date de 1920 et qui est considérée comme une des chansons où Marenay affirme et clame haut et fort sa bisexualité et son homosexualité. Donc cette chanson s'appelle Prove It on My Blues. Et alors, vite fait, je vous raconte un peu ce que raconte cette chanson. Donc, il faut toujours rester dans le contexte. On est dans l'année 1920, du coup, ça reste toujours assez subtil et tout ça, machin. Donc, elle raconte qu'elle sort avec ses amis, machin. Elle raconte qu'elle aime les femmes et qu'elle n'aime pas trop les hommes. Que les gens disent d'elle qu'elle est tordue. Que elle, ce qu'elle aime, c'est porter des cravates et des cols. Mais qu'on dise d'elle qu'elle soit tordue, elle s'en moque. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle aime, et elle le prouve dans son blues. et elle pourrait le dire à la terre entière. Alors on va écouter cette chanson qui s'appelle donc Prove It On My Blues.
When I last night had a great big fight, everything seemed to go wrong. I looked up, to my surprise, the gal I was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know. This day I do it, ain't nobody caught me. Sure got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, been muffin women, cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie, make the wind blow all the while. But the spell I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me.
Toujours sur Dégenrée, une émission féministe où ce soir on parle de l'héritage du blues et du féminisme noir. Aujourd'hui encore, les femmes afro-américaines se trouvent dans une situation paradoxale. Considérées depuis toujours comme le ciment de la famille noire, elles restent trop souvent sous la coupe de la jante masculine. Dans une communauté où l'homme est traditionnellement fort et haut en couleur, à l'image du héros du ghetto cher au cinéma Blaxploitation, la femme est censée faire des enfants et les élever en trouvant elle-même le moyen de boucler les fins de mois difficiles. Il n'en reste pas moins que la femme afro-américaine, marquée par plusieurs siècles de servitude, subit de longue date les effets conjugués du racisme, du sexisme, de l'injustice sociale et de multiples formes d'oppression tout aussi insidieuses. Au milieu des années 60, lorsque l'activiste Angela Davis faisait une entrée spectaculaire dans l'arène publique sous les traits d'une femme noire décidée à libérer toutes les femmes noires, pour reprendre l'expression d'Aretha Franklin, on pouvait croire à un avenir meilleur. 40 ans plus tard, malgré des avancées notables, on est encore loin du compte. À l'aube du nouveau millénaire, près d'une noire américaine sur deux assume seule la responsabilité du foyer, et 56% des enfants afro-américains sont élevés par leur mère. 150 ans après l'abolition de l'esclavage, la femme noire continue à subir la double peine de son sexe et de ses origines raciales. Les afro-américaines n'ont jamais porté ce poids en silence. Bien avant l'émancipation, elles ont montré qu'elles étaient capables de s'exprimer, en dansant, en chantant, en prêchant. Et tandis que le blues voyait le jour dans le sud profond en réaction à la résurrection de la servitude, mal dissimulée sous le manteau de la ségrégation et du métaillage, elles ont tout naturellement trouvé leur place dans l'histoire naissante de l'art musical premier des Afro-Américains. Le blues a sans doute été initié par des troubadours de sexe masculin au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, mais c'est aux femmes qu'il doit avoir fait le tour du monde à la suite de succès remportés par les Crazy Blues de Mamie Smith qu'on a écouté peu après la Grande Guerre. Tout au long des années 1920, le blues aura même été la chasse gardée des classic blues singers.
Donc les femmes du blues. Enfin, c'est pas la traduction littérale, mais elles sont appelées comme ça en fait.
Qui régnaient sur le monde du music hall noir. La situation a changé du tout au tout lorsque les dénicheurs de talents qui écumaient le Sud à la demande des maisons de disques ont découvert dans les bars de quartier, les bistrots de campagne et dans les camps de bûcherons une mine insoupçonnée de chanteurs de blues. En l'espace de quelques années, cette musique que l'on croyait attachée à l'expérience féminine s'est brusquement masculinisée au point que le blues est resté depuis l'apanage des hommes. La femme se contentant d'apparaître dans les couplets et les refrains, oulala, sous les traits d'une castratrice sans cœur ou d'une traîtresse infidèle. Et même lorsque des rares chanteuses de blues à succès telles que Lucie Bogan ou Memphis Minnie parviennent à se tailler une place dans ce monde d'hommes, c'est pour mieux se trouver soupçonnées de lesbianisme. Voilà.
Alors, Lucie Bogan, par exemple, donc là, ce sont d'autres chanteuses de blues qui sont arrivées un petit peu plus tard que Bessie Smith ou Marinée. Donc, Lucie Bogan, par exemple, elle a écrit... alors, on n'a pas de chanson d'elle, on est un peu hyper triste. Ah si, on en a une.
Si, on a une chanson.
Ok.
C'est pas celle qu'on adore.
Super, voilà. Mais bon, en tout cas, Lucie Bogan, voilà, dans ses chansons, elle fait pas mal de références et complètement dénuée de sentimentalisme sur... concrètement, les difficultés économiques des prostituées pendant la crise de 1929, par exemple. Donc, c'est une chanson qui s'appelle « They Ain't Walking No More ». Je crois que c'est un titre qui a été corrigé un peu plus tard par « Tricks Ain't Walking No More ». Excusez mon accent non anglais. En d'autres termes, un peu littéralement, qui voudrait dire « Les clients ne montent plus ». Donc il y avait aussi, en plus de Lucie Bogan, on trouve aussi Bessie Tucker, donc c'est par contre elle où on n'a pas trouvé de chanson et qu'on a très envie de trouver dans la vie et qu'on vous encourage à trouver. Donc Bessie Tucker, dans sa chanson dans The Dummy, par exemple, elle raconte qu'elle essaie de se faufiler dans un train sans payer le billet. Quand le contrôleur la voit et, je cite, me prend par la main et me tire vers la porte et me tape sur la tête à coups de gourdin. Dans une des chansons, elle se révolte contre un contrôleur et Case to the Bush, qui est une autre chanson. C'est un blues de prison rebelle dans la meilleure, dans une bonne tradition texane, où elle dit
« Le capitaine a un gros revolver, il se croit formidable. Ce matin, je vais lui prendre s'il me fout en boule. »
Voilà, bon, c'est un peu pour expliquer un peu la verve de cette chanteuse qui est donc Bessie Tucker. Et aussi vous parler un peu d'Ida Cox, puisqu'on va aussi vous passer une chanson après. Donc Ida Cox, elle est née 1989, Georgie, parcours assez similaire, quitte sa maison familiale assez jeune pour rejoindre une troupe de théâtre, chant, jonglerie itinérante. Elle rejoint le blues plus tard. Ses compositions à elle traitent beaucoup de la mort. Et aussi, elle écrit des chansons qui revendiquent la liberté des femmes, telles que « Wild Women Don't Have the Blues », un peu littéralement « Les cavaleuses n'ont pas le cafard », ou encore des chansons avec des conseils de femme à femme. Donc là, on vous propose justement d'écouter quelques-unes de ces chanteuses comme Lucie Bogan ou Ida Cox.
Comme un petit set musical.
Un petit set musical, il n'y aura pas d'interruption. Du coup, nous aurons d'abord Lucie Bogan avec Reckless Woman, qui veut dire les femmes endiablées. Ensuite, nous écouterons Ida Cox, Give Me a Break Blues. Donc, Give Me a Break Blues, elle raconte comment, dans ce texte, elle raconte comment elle a été jetée par son mec, alors qu'elle l'a nourrie, logée, et qu'elle se sent du coup hyper triste et maltraitée. Et du coup, elle lui demande un break, c'est-à-dire une pause, qui cesse de la maltraiter, comme elle a pu lui permettre une pause dans sa maltraitance du fait qu'il était pauvre, pas d'amis, etc.
Noir.
Et ensuite, la dernière chanson d'Ida Cox, c'est Death Letter Blues, où justement, elle parle de la mort et annonce la mort de son amour.
A woman riptide of one man all the time. Lord, Lord, Lord. A woman gets tired of one man all the time. Lord, Lord, Lord. And don't care what you give her, you can't change her rambling mind. Don't ever think you got a whole woman by yourself. Lord, Lord, Lord. Don't ever think you got a whole woman by yourself. Lord, Lord, Lord. Cause it never was a woman didn't love somebody else. What that woman said, but she sure is telling the truth about some women. Suppose I ain't like that myself. I never loved just one man in my life. Lord, Lord, Lord. I never just one man in my life. Lord, Lord, Lord. All this kind of love I got, I can love the same way twice. Some women lack two men, some women they lack three. Lord, Lord, Lord. Some women like two men, some women say like three. Lord, Lord, Lord. But I like as many men I see is good to me. Thank you.
give me a break, Papa, like I gave you. Received a letter that my man was dying. I received a letter that my man was dying. I caught a plane and went home flying. When I got there, folks had gathered around. When I got there, folks had gathered around. His eyes was set and his face was full of frowns. He wasn't dead, but he was slowly dying. He wasn't dead, but he was slowly dying. And to think of him, I just can't help from crying. I followed my daddy to the burying ground. I followed my daddy to the burying ground. I watched the pallbearers slowly let him down. That was the last time I saw my daddy's face. That was the last time I saw my daddy's face. Mama, love you, sweet Papa. Wish I could take your place.
De retour en studio. Et du coup, tout à l'heure, Dino, toi, tu parlais du Classic Blues Singers. En fait, le Classic Blues Singers, c'est un peu pour définir justement toutes ces femmes qui ont permis en fait l'émergence, la popularisation, la reconnaissance du blues. Donc on le répète, bien avant que les premiers grands bluesmen reconnus dans l'histoire du blues, écrits essentiellement par des hommes, et définis comme les fondateurs, à partir des années 1920, c'est-à-dire où le blues a vraiment pris un essor important, c'est vraiment une musique et une tradition vocale essentiellement féminine, en fait, portée par des voix de femmes. Donc on l'avait avec Bessie Smith, Ma Rainey, Billie Holiday aussi, qui à un moment donné se réapproprie ce style musical. Et là, tout à l'heure, je vous parlais aussi de Lucie Bogan.
Une des chanteuses qu'on vient d'écouter.
Voilà, elle a écrit aussi une chanson qui s'appelle « Shave 'Em Dry ». Donc qui n'a jamais été censurée. Par contre, elle était éditée de manière anonyme. C'est un petit peu comme Prove It on My Blues, c'est-à-dire que là, elle raconte, elle exalte en fait sa sexualité, affranchie de tout carcan, comment elle reprend du pouvoir sur sa vie, sur sa sexualité, ses sexualités, etc. Donc Bessie Smith, comme Marinée, aussi comme Victoria Spivey, qu'on écoutera aussi un peu plus tard. C'était toutes des chansons qui célébraient le meurtre, la drogue, la prostitution et d'autres activités antisociales. Donc des activités comme autant d'éléments de pouvoir et d'indépendance dans la vie de certaines femmes. Donc Marinée aussi, donc on l'a vu, elle ajoute le lesbianisme à cette liste, et aussi comme Lucie Bogan. Donc Lucie Bogan,
il y a sa chanson à Lucie Bogan qui s'appelle Woman Won't Need No Man, où elle dit clairement les femmes n'ont pas besoin des hommes. Et elle parle même de Gwyn masculine dans cette chanson. Et on est toujours en 1920.
Et il y a aussi Liliane Glynn qui, elle, dans un des refrains de sa chanson « Doggin' My Blues », dit « Je me fiche que mon homme soit noir ». Donc là, c'est aussi une des rares chansons sur la question raciale
où elle célèbre la négritude.
Elle célèbre la négritude, c'est super bien dit. On a Alice Moore aussi, par exemple, qui, elle, a été une chanteuse de blues urbain assez importante. Elle, dans Black and Evil Blues, c'est une claire déclaration d'abnégation fondée sur la couleur de peau. Aussi dans Broadway Street Woman Blues, où là, elle narre l'arrestation et la condamnation d'une prostituée et la condamne. Donc on le voit vraiment avec ces chanteuses qu'elles sont dans un cadre d'émancipation et de parole publique sur une double oppression. Ça va concerner leur communauté noire, ça va concerner leur communauté de femmes, et elles vont passer de l'une à l'autre pour s'exprimer, pour prendre de la liberté aussi par rapport à leur vie et chanter quoi, leur rage, chanter... non pas leur désespoir dans le sens de résignation, mais leur rage et c'est possible de s'émanciper, on va se donner des conseils entre nous, etc.
C'est clair. En tout cas, le blues, c'est vraiment une des voies de l'émancipation des Noirs et des femmes noires. Alors, on va encore se faire un set musical, hein, parce qu'on avait envie quand même que cette émission soit une émission musicale. On va aussi écouter une autre chanteuse et musicienne de blues qui s'appelle Memphis Winnie. Donc 1894 Louisiane. Memphis Minnie, c'est aussi une chanteuse connue, aussi parce que c'est une instrumentiste, on dit ça comme ça.
Ouais, elle joue de la guitare beaucoup, elle la quittera pas d'ailleurs.
Ouais. Donc on sait d'elle qu'elle s'enfuit à l'âge de 13 ans pour aller jouer du banjo et de la guitare avec une troupe de cirque, puis elle va rejoindre le blues où elle va composer des chansons pleines d'humour, tout en traitant toujours des événements marquants pour la communauté noire, donc elle s'inscrit dans le blues. Elle a été aussi importante, enfin c'est aussi une des fondatrices du Chicago Blues, donc c'est-à-dire le blues avec l'ajout d'un instrument tel que la guitare, la batterie et les cuivres,
parce qu'au départ,
ouais, c'est ça, parce qu'au départ le blues était chanté avec des instruments plutôt corporels quoi. Mmh. On tapait dans les mains, on sifflait, on tapait sur le ventre, vu que c'est la musique des chants. Au départ, il n'y avait pas vraiment d'instruments, et petit à petit les instruments se sont ajoutés, et notamment avec le Chicago Blues. Et Memphis Minnie est une des femmes qui a réussi à se faire réellement une place aussi dans le blues. Il y a quelques bouquins où on va parler d'elle, mais sinon rares sont les autres. Il y a plein d'autres musiciennes de blues et tout ça machin, mais elle c'est une des seules qui a réussi à faire sa place, autrement dit.
Pour un exemple, là, on a un bouquin sur la grande encyclopédie du blues. À l'intérieur, en effet, on va trouver quelques passages spécifiques sur Bessie Smith ou Marinée, mais sinon, ça va être dans la partie Classic Blues Singers, et on va avoir quelques lignes sur les autres chanteuses de blues. Mais 98,58% du reste du bouquin, c'est des chanteurs noirs.
Ce et ne sont on pas trouve des chanteuses ça scandaleux noires.
Il y en a d'autres, peut-être Lil Green,
ouais,
aussi,
Lil Green,
qui a été importante aussi dans le mouvement du blues des femmes. Elle est née en 1919, donc plus tard, dans l'Illinois. Pareil, elle commence à chanter assez jeune dans les clubs de blues. Et sa spécificité, un petit peu elle, c'est des chants très coquins, érotiques, pareil, d'émancipation et de sexuel et de désir, ses désirs à elle. Elle se tourne aussi vers le jazz et meurt aussi hyper jeune, à 35 ans. D'une pneumonie, on peut aussi se demander... Enfin, bon, je sais pas, en vrai, la pneumonie à cette époque, comment elle est traitée, mais tu parlais aussi, Dino, tout à l'heure de... À un moment donné, des distinctions raciales dans le traitement et le soin. Du coup, et notamment, on peut aussi continuer à se poser des questions quoi, à cette époque-là. Qui mourait jeune et comment et dans quelles conditions quoi.
Et d'ailleurs, Ida Cox, qui était une chanteuse de blues qu'on a passée tout à l'heure, elle, justement, qui parlait notamment de la mort dans ses chansons, s'est vachement attachée à la maladie. Et notamment aussi parce qu'effectivement, on ne soignait pas les Noirs comme on soignait les Blancs. Quoi. Du coup, il y a beaucoup de Noirs qui sont morts prématurément, entre guillemets, de maladies qui étaient déjà... davantage soigné chez les Blancs, quoi. Bon, bref, hein, c'est pas... tout ça n'est pas très étonnant.
Du coup, là, on va vous passer un petit set musical pour terminer l'émission, parce qu'après, je pense que nous ne reprendrons pas l'antenne et on vous dira à dans 15 jours. Le thème de l'émission dans 15 jours, je crois que ce sera un exposé féministe, un exposé de vulgarisation d'une auteure sociologue, anthropologue féministe. Vous aurez plus de détails, vous pouvez aller voir sur Indie Media Grenoble par exemple, ou directement vous pouvez aussi taper dégenré via infokiosque.net et vous tomberez aussi sur une page qui parle de nous, nos émissions, il y a des musiques qui sont enregistrées. Je suis perturbée par ma collègue. Bref, du coup, là, on va vous passer un set et puis on vous dit ciao, bye bye, à bientôt. Dans ce set, on va réécouter Bessie Smith, Memphis Mini. On va écouter Cora Mae Bryant. Donc, juste un petit topo sur elle. On va écouter une chanson qui s'appelle Ambon et qui est donc une danse de plantation connue à l'époque de l'esclavage sous le nom de Patine Juba. Donc la musicienne ou le musicien rythme en se frappant les cuisses, la poitrine, les bras avec les mains. Donc on va écouter cette chanson d'elle. Et puis on écoutera aussi Victoria Spivey dont on vous a parlé, Lil Green. Et pour commencer,
on réécoutera Billie Holiday dont on vous a parlé tout à l'heure. Et alors, je vais vous traduire sa chanson. C'est la première chanson qu'elle a écrite personnellement et qu'elle a écrite, en fait qu'elle a improvisée un soir où elle en avait marre, parce que justement, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, elle a vécu vraiment beaucoup elle s'est retrouvée avec beaucoup d'hommes violents. Et voilà, et cette chanson, elle dit « J'aime mon homme, je mentirais si je disais le contraire, mais je le plaquerais, mon homme, je mentirais si je disais le contraire. J'ai été ton esclave, chérie, depuis toujours j'ai été à toi, mais plutôt que d'être ton chien, je préférais te voir mort. »
Thank you. some call them snappy, some call me honey, others think I've got money. Some tell me, baby, you've been forced me. Now if you put that all together, makes me everything a good man.
Thank you.
brought her home. You can't find no holes at all. Everybody wants to buy my kitty. Everybody wants to buy my kitty. Everybody wants to buy my kitty. I wouldn't sell that cat to save your soul. You have seen a lot of cats and you're gonna see a lot of moles. I got one I can't everywhere I go. Everybody wants to buy my kitty. Everybody wants to buy my kitty. Everybody wants to buy my kitty. I wouldn't sell that cat to save your soul. Oh, play now, catch your rat.
I don't like no tea man, he got no money, he got no hands.